Le journal Marie-Aimée Copleutre.
Bonsoir à tous et à toutes. La grande messe politique du dimanche soir, c'est la longue interview fleuve de François Bayrou, donnée en ce moment sur les chaînes d'information en continu. Convaincre la France de faire 44 milliards d'euros, l'objectif du Premier ministre, et pourquoi pas cibler les plus âgés. Explication à suivre. La France s'affiche en soutien du Danemark avec une opération diplomatique au Groenland ce week-end contre Donald Trump. Dernière heure pour se faire entendre avec cette enquête nationale dédiée aux agricultrices. 80% d'entre elles constatent des inégalités liées à leur genre. Depuis son bureau de Premier ministre, François Bayrou donne en ce moment même une interview aux chaînes d'information. Une heure de prise de parole à une semaine du vote de confiance des députés. Dernier recours pour convaincre les élus d'adopter un budget amputé de 44 milliards d'euros. Héloïse Weiss, bonsoir.
Bonsoir.
Pour remporter l'adhésion, François Bayrou sort une nouvelle carte s'adresser aux jeunes en ciblant ce qu'il appelle les boomers, des Français plus âgés, retraités qui ont accès à des privilèges au détriment des jeunes victimes de l'endettement.
Et quitte donc à opposer deux classes d'âge, car pour les boomers, tout va bien selon le Premier ministre. La génération des boomers dont il fait partie est née entre 1945 et 1965, c'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui entre 62 et 80 ans et cela ne doit pas les empêcher de s'intéresser aux plus jeunes, martèle François Bayrou en déplacement vendredi au micro de France Info.
Ceux-là qui ont profité de l'aisance de l'après-guerre, qui ont travaillé beaucoup, mais qui ont profité de cet élan-là, ils devraient être aujourd'hui à mes côtés les premiers pour qu'on baisse la dette et pour que ça ne soit pas les plus jeunes qui soient obligés de la payer. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui est immoral, qu'une génération ne pense pas à la génération suivante.
Car la question d'une taxation supplémentaire des boomers, des retraités, revient régulièrement. De la suppression de leur abattement fiscal de 10% à une hausse de la contribution sociale généralisée, ce que déplore le secrétaire général de l'UNSA retraité, Claude Lassalvi. Les inégalités entre retraités sont fortes, explique-t-il.
La pension moyenne est à 1570 euros en 2023, moyenne brute. C'est beaucoup moins pour les femmes, donc la situation n'est pas si mirobolante que ça.
Quant à l'épargne des retraités, elle sert à leurs vieux jours, poursuit-il.
C'est vrai que le patrimoine des retraités est supérieur à celui des actifs d'environ 50 000 euros. Ça représente à peu près 2 ans d'EHPAD, dans la mesure où, en France, le service public de prise en charge de la grande dépendance et du grand âge est inexistant.
D'après l'INSEE, les retraités représentent plus de 20% de la population en 2025, c'est-à-dire 14 millions de personnes.
Merci Héloïse Weiss. Et parmi les mesures de son budget 2026, François Bayrou compte supprimer 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. Retirer ces jours fériés sans contrepartie de revenus permettrait, selon le gouvernement, d'économiser 4 milliards d'euros. Or, ailleurs, dans d'autres pays, les jours fériés sont vus comme une manne financière. C'est le cas en Corée du Sud, où les week-ends de 3 jours rapportent beaucoup à l'État, Célio Fioretti.
Week-end prolongé obligatoire, difficile d'imaginer cela dans l'un des pays qui passe le plus de temps au travail, entre 40 et 50 heures par semaine. Mais d'après une étude commandée par le gouvernement sud-coréen, ces week-ends prolongés pourraient rapporter près de 3,6 milliards d'euros de revenus en favorisant la consommation, notamment dans l'hôtellerie et restauration. D'après les auteurs de ce rapport, la possibilité d'un week-end de 3 jours systématique pourrait permettre aux Sud-Coréens de partir en vacances. Cette gérante d'hôtel dans les montagnes du sud du pays s'attend à plus de réservations grâce au week-end prolongé.
Si les gens ont 3 jours de week-end, ils vont vouloir voyager, visiter la région, donc cela va les inciter à venir et réserver 2 nuits à l'hôtel. Ils vont aussi aller voir les commerces alentours et je pense que c'est une bonne chose pour l'économie locale.
Un pays voisin, le Japon, a déjà instauré ce système depuis les années 2000 pour permettre de plus longs week-ends et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Célio Fioretti, correspondant à Séoul pour France Culture. Au Groenland, la France vient exprimer sa solidarité ce week-end face aux tentatives d'ingérence de Donald Trump. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a passé le week-end dans la capitale du Groenland, Nuuk, où il a condamné la position américaine. Écoutez-le.
Cette brutalisation se manifeste par la tentation redoublée de grandes puissances d'adopter à l'égard de leurs voisins des logiques de prédation. Par l'intimidation, par la contrainte, par le chantage, par la menace parfois, placer leurs voisins dans une situation d'asservissement. De ce point de vue-là, le Groenland n'est pas à prendre. Le Groenland n'est pas à vendre. Et comme l'ont rappelé les autorités danoises et groenlandaises, les manœuvres récentes sont inacceptables et irrespectueuses. On ne construit pas la grandeur d'une nation sur la servitude de ses voisins et de ses alliés.
Jean-Noël Barrot, qui n'a pas fait uniquement le déplacement pour prôner la paix, il a également signé des contrats avec le Danemark pour accéder aux métaux rares des nappes souterraines du pays. Précision de notre envoyé spécial à Nuuk, Fabien Cazot.
Les nouvelles coopérations entre la France et le Groenland que le ministre des Affaires étrangères vient d'annoncer portent sur des domaines très larges. Le plus stratégique concerne les sous-sols du Groenland. La France compte réaliser une cartographie des ressources minières en coopération avec les autorités locales. Une mission française fera le déplacement dans les prochains mois pour initier cette nouvelle coopération portant sur des minéraux très recherchés en France et en Europe pour décarboner et moderniser l'industrie. Toujours dans le domaine économique, d'autres projets ont été évoqués, notamment dans le secteur de l'énergie hydroélectrique. La France a une grande expertise dans ce domaine, justifie Jean-Noël Barrot, qui a également abordé le volet culturel des coopérations franco-groenlandaises à venir, notamment la restauration de la cabane de l'explorateur Paul-Émile Victor ou encore la présentation prochaine en France de l'exposition Mapping Nunat, qui rend hommage à l'art de la cartographie groenlandaise.
Les caméras asiatiques braquent leur objectif sur une autre rencontre mondiale qui a lieu ce week-end en marge des États-Unis et de l'Europe. La Chine organise son sommet. L'organisation de coopération de Shanghai, où 20 chefs d'État sont attendus, dont Vladimir Poutine pour la Russie, le premier ministre indien Narendra Modi ou encore le dictateur nord-coréen Kim Jong-un, rencontre sur 4 jours avec des objectifs commerciaux mais aussi géopolitiques. En Indonésie, les manifestations contre le gouvernement prennent de l'ampleur. Les domiciles de plusieurs responsables politiques ont été pillés cette nuit. Le président Prabowo Subianto demande des mesures fermes contre les, je cite, « émeutiers et pillards ». Depuis lundi, le pays connaît de violentes protestations. 3 personnes sont mortes dans les émeutes lors d'un incendie de bâtiment. Manifestation contre les bas salaires et les avantages des députés. Israël annonce la mort du porte-parole du Hamas, Abu Obeida, tué cette nuit dans un énième raid sur la bande de Gaza. 16 personnes, dont 10 près d'un centre humanitaire, sont mortes également dans ces bombes. L'armée israélienne qui se réunit en cabinet de sécurité ce dimanche pour planifier son attaque massive sur la ville de Gaza, où se trouve toujours 1 million de Palestiniens. Et puis de leur côté, les Houthis au Yémen promettent d'intensifier leur attaque contre Israël au lendemain de la mort de celui qu'ils qualifient comme leur premier ministre, tué samedi soir. Frappes qui ont également touché plusieurs endroits de la capitale Sanaa, où vivent des civils, environ 3 millions de Yéménites. Ils partent vers Gaza ce dimanche. Ils prennent le large pour apporter vivres, médicaments. Plusieurs dizaines de bateaux partent d'Espagne pour une tentative humanitaire renouvelée après celle du Madeleine, arrêtée en juin par l'armée israélienne. Greta Thunberg, la militante écologiste suédoise, participe à cette coalition d'activistes où se trouvent environ 700 Français. Dernière heure pour recevoir les témoignages des agricultrices françaises. La consultation lancée début juillet par la ministre Annie Genevard sur la place des femmes dans le métier d'agricultrice va prendre fin ce soir. Questionnaire en ligne à remplir en 5 à 10 minutes qui vise à mieux comprendre, Catherine Pétillon, les inégalités femmes-hommes dans ce secteur.
Alors que la profession fait face à une crise démographique d'ampleur, les femmes agricultrices seront indispensables au renouvellement des générations. Seulement, elles restent aujourd'hui minoritaires. Il faut dire que même si leur statut a beaucoup évolué dans les 60 dernières années, tout au long de leur vie professionnelle, les agricultrices sont confrontées à des inégalités de genre. Et la consultation, lancée par le ministère de l'Agriculture, témoigne déjà de ces difficultés, explique Annie Genevard. De plus en plus de femmes vont dans des lycées agricoles, seulement la majorité d'entre elles se dirigent ensuite vers le service plus plutôt que vers la production agricole proprement dite. Les difficultés pour concilier vie agricole et parentalité, ou encore pour accéder aux services de remplacement et partir en congé, restent des obstacles importants au fait de se lancer dans ce métier. Autre chantier de taille, la santé au travail. Pour les agricultrices, les conditions de travail restent souvent particulièrement difficiles et les contraintes physiques fortes, faute de matériel adapté. Pour avancer sur ces sujets, la ministre de l'Agriculture a annoncé cette semaine un plan d'action national entre 2026 et 2030, dont la présentation est attendue en octobre prochain. Parmi les autres sujets auxquels il devrait s'atteler, l'actuelle sous-représentation des femmes dans les instances de décision, comme les chambres d'agriculture et les syndicats.
Catherine Pétillon qui signe également un grand reportage sur France Culture intitulé « Agriculture, les femmes creusent leur sillon » à réécouter sur notre site et application. Demain, la rentrée scolaire annulée dans les Bouches-du-Rhône et le Var en raison de fortes intempéries, des orages et des fortes pluies attendues sur les deux départements. La météo de demain, violent orage, alerte Météo France, 10 départements placés en vigilance orange, pluie, inondation et orage. Sur le reste du pays, des nuages et de la pluie, les températures entre 18 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau à la technique Paul Guigues.